Jo.
Du 22 janvier au 2 février, le Théâtre de l'Anche, qui fête sa réouverture après travaux et ses 30 ans au service de la création théâtrale à Marseille, présente la dernière bande, d'après Samuel Beckett, une proposition de la compagnie La Nicolacheur et King's Fountain. Crap's Last Tape, c'est le titre en anglais de cette pièce qui sera mise en voix par Henry Pillsbury et mise en scène par Xavier Marchand, ce qui fait déjà deux excellentes raisons pour vous y précipiter. Mais ce n'est pas tout. À l'occasion des représentations de la dernière bande, une invitation a été lancée à l'écrivain Raymond Federman, dont l'amitié avec Beckett et la connaissance très fine et personnelle de son œuvre rendent précieuse sa participation au projet. Il interviendra avec plusieurs lectures et conférences. Enfin, Pascal Homovert, comédien, donnera lecture de Premier amour, une nouvelle de Samuel Beckett proposée en regard de la dernière bande. Un programme auquel la Grenouille a souhaité s'associer au travers de cette émission spéciale, en présence de Raymond Federman, Xavier Marchand, Pascal Homovert et Henry Pillsbury. Bonjour et merci à tous d'avoir répondu à cette invitation et peut-être un remerciement un peu particulier à Raymond Federman qui a fait un long chemin depuis les États-Unis où il réside pour participer à ces manifestations et à cette émission. Salut à tous.
Salut.
Salut.
Xavier Marchand, je crois que jusqu'à il y a peu, l'œuvre de Beckett ne t'était pas particulièrement familière, tes créations te portant plutôt vers d'autres auteurs, d'autres rivages. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce texte particulier, Crap's Last Tape, et à l'œuvre de Beckett plus généralement ?
Bonjour, ce qui m'a fait m'y intéresser, c'est un coup de téléphone que m'a passé un jour Henry Pillsbury. Me parlant d'une idée que j'ai trouvée fort intéressante, d'essayer de monter les deux versions de la dernière bande, donc Crap's Last Tape, à la fois en français et en anglais. Me proposant de me mettre en scène dans la version française et de le mettre en scène dans la version anglaise. Je pense que c'est pas une proposition tout à fait hasardeuse puisque moi j'avais fait des tentatives de mêler différentes langues dans d'autres projets que j'avais pu monter, en particulier sur Dylan Thomas. Donc voilà, après y avoir réfléchi et avoir proposé cette idée-là au théâtre de l'Athénée à Paris, on en est arrivé à se dire que c'était mieux qu'Henri joue les deux versions, de par le fait qu'il connaît bien ce texte, comme je pense qu'il nous dira tout à l'heure, puisqu'il vit avec depuis à peu près 30 ans. Voilà, donc l'œuvre de Beckett, moi en fait, je la connaissais pas. Je la connais un peu mieux maintenant. J'avais peut-être tourniqueté autour pour avoir travaillé sur Proust et sur Joyce. Mais il est vrai que Beckett, au fond, je m'y étais pas tellement attelé, ce qui est, disons, fait maintenant.
On va essayer de faire un petit peu mieux connaître aux auditeurs Samuel Beckett, grand auteur, immense dramaturge. Mais je crois qu'il n'est pas complètement inutile de resituer son œuvre, et notamment cette dernière bande dont il est question dans l'œuvre globale de Beckett, puisque ce texte intervient, je crois, à un moment charnière dans sa production.
Oui, donc peut-être que Henri peut resituer ça.
Oui, c'est-à-dire que la pièce qui date de 58, Beckett déjà écrivait plutôt en français, au moins pour les romans. Il avait fait ces deux pièces, Godot et Fin de partie. Il avait donc un grand succès d'estime, mais il préférait à l'époque écrire en français. Il a écouté en 58, il a écouté, ou 57, il a écouté une lecture d'un de ses romans, Molloy, par un artiste, acteur, Patrick McGee, irlandais. Et d'ailleurs, en plus, il avait écouté aussi avec un enregistrement, et ça l'étonnait, la possibilité de faire des enregistrements. Donc, pour la question purement pratique, il a écrit cette pièce pour une voix irlandaise, et il l'a écrit en anglais. Par la suite, il l'a refait en français, bien sûr. Mais et la particularité de ça, c'est que 10 ans avant, dans la chambre de sa mère, il était rentré en Irlande, il a eu une espèce de, si on veut bien dire, une espèce de vision où il a compris que son avenir d'écrivain tournait autour de la possibilité d'explorer l'obscurité, le noir, le sombre dans la vie. On a pu dire qu'en partie, cette ombre dans laquelle il vivait était l'ombre de James Joyce, auteur extrêmement prolixe dans la force littéraire et la production de beaucoup de mots extraordinaires. Et Beckett a compris que lui, il n'avait plus à ajouter dans cette direction-là. Il allait dépouiller les choses et aller vers quelque chose de plus en plus dépouillé. Il a mis tout ça, cette vision et cette compréhension de son avenir, dans la pièce la plus autobiographique de lui, qui est Crabbe's Last Tape, la dernière bande, qui tourne autour de l'échec d'un écrivain, Crabbe, par deux reprises, qui travaille avec une... qui fait son journal personnel tous les ans en enregistrant sa voix. Donc, la pièce de Beckett est à la fois une façon de révéler cette expérience critique de sa vie. Il en fait une critique lui-même. La pièce est très dure vis-à-vis de cette possibilité d'être un grand écrivain. Mais la pièce reste... un exemple curieusement très lyrique dans la littérature de Beckett.
C'est donc une double rupture, une rupture à la fois formelle. Beckett choisit de ne plus écrire de romans parce qu'il ne veut pas être dans l'ombre de James Joyce. Et puis, un petit peu plus tard, il va choisir aussi de s'établir à Paris et de partager son écriture entre le français et l'anglais. Je crois qu'il n'y a jamais eu véritablement un abandon de la langue anglaise. Il a continué à écrire en anglais, mais l'essentiel de sa production sera en français, sans doute aussi par une volonté d'épure et une volonté de travail sur la matière même des mots. Raymond Federman, vous êtes l'auteur d'une thèse publiée aux États-Unis sur Beckett, et puis aussi du cahier de Lerne qui est consacré à Beckett ici en France. Pour autant, je crois que votre connaissance de cet auteur, elle n'est pas figée dans un registre universitaire du tout, et loin s'en faut. Comment est-ce que vous avez rencontré Beckett, à la fois l'homme et puis son œuvre ?
Avant de dire ceci, je dois dire que Beckett n'abandonne jamais le roman. Oui. Après Crabbe, il a écrit un roman formidable, c'est « Commencer », et puis ensuite des textes courts, mais qui pour moi restent dans le domaine de le dépeupleur, c'est un roman. Mm-hmm. Bon, c'est un roman de 52 pages, mais parce que Beckett, comme a bien dit Henri, allait vers ce qu'il appelait lui-même les sons fondamentaux. C'est donc arrivé à un langage purifié de tout ce qui le salit en somme.
Raymond, je voulais juste ajouter aussi, il n'a jamais abandonné non plus la langue anglaise. Il a été, c'est un cas presque unique de quelqu'un qui vivait vraiment entre deux langues, constamment, il n'a jamais négligé le français, il n'a jamais négligé le...
Non, et il pouvait passer d'une langue à l'autre, on sortait souvent avec lui, ma femme et moi, ma femme, son français n'était pas, on parlait en français avec moi, et puis se tourner vers ma femme et passer à l'anglais comme ça, d'un moment à l'autre.
On va tout à l'heure parler de ce bilinguisme qui est évidemment fort intéressant. Peut-être pour rester sur Beckett, les grands thèmes beckettiens. On a parfois, à propos de son théâtre, parlé de théâtre de l'absurde, et je crois que lui-même n'aimait pas du tout cette expression.
Une erreur, c'est ce pauvre monsieur Martin Esslin qui a lancé ce malheureux mot dans le théâtre. Non, non, non. Et non plus, je ne crois pas qu'il faisait partie du nouveau roman. On l'a aussi fourré dans la catégorie du nouveau roman parce qu'il est publié aux éditions de Minuit avec... Non. Bon, pour revenir à votre question, moi j'ai proposé en 1959, j'ai d'abord vu En attendant Godot en 1956 à New York, et ça m'a complètement frappé, j'en parlerai... samedi soir, je crois, un peu plus en détail. Et j'ai proposé comme thèse de doctorat en 1959 à l'Université de Californie à Los Angeles, Samuel Beckett. Mon comité de professeurs, mais monsieur Federman, c'est pas sérieux, c'est un charlatan. Voilà ce qu'on m'a dit. J'ai insisté et même j'étais très en colère ce jour-là. Je me suis dit, mais non, c'est un très grand écrivain. Dans 10 ans, il aura le prix Nobel. Je suis tombé à pic. 1969, le prix Nobel. Et alors j'ai passé...
Un prix Nobel qu'il n'a pas accepté d'ailleurs, je crois que c'est son éditeur qui est allé le chercher à sa place.
Lui-même, on a été se cacher en Tunisie. Non, il a accepté, je crois qu'il a donné l'argent, je ne sais pas, à des tas d'autres, des jeunes écrivains surtout. Mais pour moi, rencontrer l'œuvre de Beckett a transformé ma vie. M'a transformé ma vie dans le sens que c'est ce qui a fait de moi le genre d'écrivain que je suis aujourd'hui. Je dis toujours, il m'a appris à échapper à l'imposture du réalisme.
Et pourtant, ce que l'on voit sur les planches et qui est signé Beckett, c'est quelque chose d'extrêmement réel. C'est quelque chose qui va même au cœur du réel et du réel humain, de la personne humaine, de son humilité, de ses limites, de ses noirceurs.
Oui, mais ce n'est pas du réalisme. Le réalisme, c'est quelque chose qui vous fait croire que c'est comme que la réalité et la fiction, c'est la même chose. Non, c'est pas ça du tout. Chez Beckett, on se croirait parfois dans un univers de science-fiction, on se croirait dans des caves, dans des grottes préhistoriques, on se croirait un peu partout. Un roman où il n'y a que des êtres qui se traînent dans la boue, nus. Non, c'est pas du réalisme, ça.
Est-ce que Raymond, peut-être Henri aussi, vous avez rencontré Samuel Beckett ?
Moi, oui, je ne sais pas, Henri...
En deux mots, moi, non. Au contraire, je connaissais très bien, j'avais beaucoup d'amis en commun. Je l'ai vu souvent marcher, etc., mais je ne voulais pas tout bêtement l'embêter. Je sais que c'est un ami qui... Raymond va nous en parler. C'est quelqu'un qui se donnait beaucoup à ses amitiés. Je travaillais avec son œuvre, mais pas avec lui.
Je vous dis comment je l'ai rencontré. Quand j'écrivais ma thèse en Californie, j'avais organisé pour un poste de radio comme ça, un programme de 2 semaines sur Beckett. Alors tous les soirs, on avait enregistré ceci, discussions, des lectures. On avait même des acteurs qui étaient venus, qui ont lu tout Godot. Et puis le directeur de la radio dit, il faudrait peut-être la permission de M. Beckett. Alors je lui ai écrit une lettre aux éditions de Minuit. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse. Et voilà une lettre qui arrive. Disant, cher monsieur Federman, je suis très touché que des jeunes, c'est pas qu'à j'avais très loin de s'intéresser à mon œuvre, vous avez ma permission. Et si vous venez à Paris, et il donne son numéro de téléphone qui était secret, bien sûr, et je l'ai rencontré au mois d'août 1963.
Et évidemment, j'imagine que cette amitié a duré assez longtemps, jusqu'à sa mort en 89.
Oui, mais alors il y a eu un moment surtout en particulier où on se voyait presque tous les jours, c'est que j'étais à Paris pendant un an en 1966-67, j'avais une bourse de la Fondation Guggenheim et je faisais une bibliographie critique annotée avec un anglais, John Fletcher, de l'œuvre de Beckett, un gros bouquin. Et alors, il m'a passé des trucs. Il m'a mis sur des pistes que personne ne connaissait. Par exemple, on ne savait pas à l'époque que Beckett, pour vivre un peu, faisait des traductions. Il avait une très belle traduction du bateau Yves de Rimbaud, Zone d'Apollinaire, des poèmes de Paul Éluard, que j'ai repris un peu dans le cahier de Léon. Et puis, des tas de choses comme ça. Il écrivait même des articles sur le jazz. Il avait traduit des trucs. Il traduisait de la poésie mexicaine. Il faisait des tas de choses. Et alors, tout ça était entré dans ce... Mais alors, le plus beau moment, c'est je suis chez lui. Et il venait de finir le texte de Bing. Et il me montre ça, et il me dit, si tu veux, il me passe 10 typescripts par le manuscrit, tu sais, où on montrait tous les changements qu'il avait fait. Alors je les ai mis en appendix à ce livre. Mm-hmm. Je lui fais voir, ça avait beaucoup plu. Et puis il venait d'arriver, ça avait été plus en Angleterre, Ping, qui est le truc, comme si tu veux, si tu mets ça aussi. Alors j'ai ça à la fin de ce livre, des textes que Beckett m'a passé comme ça. Il était d'une générosité incroyable. Mais il fallait pas l'abuser. Je dis une chose qu'il a beaucoup. Il y avait un prof américain qui est venu le voir. Et ils ont passé quelques heures ensemble. Il avait dans sa poche un enregistreur. Il a enregistré tout. Et Beckett l'a appris. Il était en colère comme tout. Il fallait pas abuser.
Tout à l'heure, Henri Pillsbury nous expliquait que ce texte, La dernière bande, était un texte très, très important, déterminant, puisqu'il correspond à une prise de conscience de cet auteur, Samuel Beckett, sur ce que va être sa destinée littéraire. Le titre de ce texte n'est pas innocent, en anglais « Crabbe's Last Tape », la dernière bande de Crabbe. Crabbe, c'est ce personnage, mais Crabbe, en anglais, peut-être en anglais un peu familier, ça signifie le rebut, ce qu'on ne garde pas, c'est la merde. Quoi. Enfin, c'est vraiment un déchet, y compris un déchet biologique.
Oui.
Et c'est peut-être aussi l'illustration du fait que Beckett, à ce moment-là, découvre qu'au fond, ce qu'il a de plus intéressant, sa matière littéraire, eh bien, c'est justement sa part d'ombre, c'est justement ce déchet, c'est justement quelque chose qui n'est pas du domaine du joli, du raffiné, du cultivé, et c'est au fond l'opposé de Joyce.
Ah oui, et alors ce qui est étonnant, c'est la connaissance de Beckett de l'argot français. Et une richesse de langue. En anglais, oui, son anglais, c'est d'une grande beauté. Je crois que son anglais est plus poétique que le français. Mais en français, il a un vocabulaire, il connaît tout. Et ça peut aller très loin dans la scatologie.
Oui, oui c'est... Si je peux ajouter, justement, je pense que, mettons côte à côte les deux textes, on voit très bien que le côté charnel, les consonnes, la force de l'anglais suffisait déjà. Et quand Beckett refaisait Crabbe's Last Tape en français, c'est justement vraiment l'argot qui revient. Je prends un exemple. Il dit en anglais, ou en français, il le dirait d'abord pour que les gens puissent, il dit « Fous-toi au pieu ». Et reprend ses conneries demain. Et en anglais, il dit simplement « Get to your bed and go on with this drivel in the morning ». Alors, c'est d'abord la connaissance du français, l'argot qui permettait ça, mais c'est que pour retrouver ce côté, je dis bien charnel, des fois obscène, qu'il y a déjà, on le sent, ceux qui parlent anglais, on le sent dans l'anglais, ça manque en français, c'est français que justement Beckett aimait épurer. Il a été obligé d'aller vers le caniveau pour trouver, ouais, n'est-ce pas Raymond, la force, ouais, de l'expression.
Il y a une belle phrase où il dit, je vais vous l'arranger, votre charabia. Il parlait de la langue française, cette langue morte qu'il disait. Et aussi en anglais, quand je dis poétique, je lis des textes en prose de Beckett et je m'arrête et je me dis, mais il y a un poème. Je vous dis ça en anglais, c'est dans le Dépeupleur. Mm. « But the persistence of the twofold vibration suggests » that in this old abode, all is not yet quite for the best. Alors je lis ça, j'enseignais ça devant ma classe, je me mets à compter les syllabes. Non, ce ne sont pas deux alexandrins, c'est 14 syllabes et qui tombent avec une rime au milieu. C'est ça, Beckett. Au milieu, alors je le vois, il est en train d'écrire et tout à coup il se rend compte qu'il est en train de travailler, de fignoler le langage pour arriver à cette espèce de poésie.
Dans cette dernière bande, le son a évidemment une place tout à fait particulière, le son de la voix enregistrée sur une bande, précisément. Un rapport au temps aussi tout à fait particulier, puisque cette voix qu'on entend elle date en fait de 30 ans. C'est la voix de Crabbe beaucoup plus jeune, et c'est un rapport à soi-même avec cette distance dans le temps. Xavier, c'est bien ça dans cette pièce ?
Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs assez étonnant qu'il ait pu écrire ça à cette époque, puisque en 58, l'utilisation à titre personnel d'engins d'enregistrement n'existait quasiment pas. Bon, ce qui est assez marrant maintenant, c'est que on travaille avec du matériel qui est devenu en si peu de temps totalement obsolète. Donc, ce rapport au temps est aussi un des éléments essentiels de cette pièce-là, de se réécouter, d'être confronté à ce qu'on a été, ce qu'on a projeté d'être et ce qu'on est maintenant. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'on a réfléchi pour que la version anglaise apporte un plan temporel supplémentaire et donc un regard différent qui ne passe pas uniquement par l'audition mais même par la vision de soi-même quelques années auparavant.
Une démultiplication des plans, effectivement, avec des éléments cinématographiques qui viennent encore démultiplier ce personnage, qui sont très beaux d'ailleurs, et avec un rythme de l'image qui en soi est musical. Comment est-ce que tu as réalisé ce film qui accompagne la pièce sur le plateau ?
J'ai travaillé avec Michel Jacquelin, que peut-être certains auditeurs
l'Art en Jean
connaissent, voilà, qui vient de présenter son exposition d'Art en Jean au FRAC.
Avec Odile Darbelay.
Et oh, je lui ai cité quelques références cinématographiques que j'apprécie, et en particulier, bon, on n'a pas fait du Robert Bresson, hein, loin de là, mais enfin en tout cas de travailler sur la première consigne, c'était qu'on ne pas une fois dans le film il y ait la même vision que pouvaient avoir les spectateurs de la scène. Donc on a travaillé beaucoup à partir de gros plans, de plans rapprochés, en essayant de faire des images relativement pauvres, de façon à ce que ce film soit un soutien à l'écoute de la langue. Donc il y a quand je dis que c'est un film pauvre, on voit donc souvent ce magnétophone et la présence d'Henri en très gros plan que le personnage de Krapp réécoute et regarde dans la version anglaise.
À l'écoute de la langue, justement, Raymond Federman, je vous propose maintenant peut-être que vous nous donniez un petit extrait du livre de Sam. Je crois que cet extrait s'intitule « Entretien avec Goethe ».
Je voudrais ajouter l'idée de d'avoir une voix, d'écouter sa voix. Beckett l'a reprise dans plusieurs pièces, dans Hey Joe, Rockabye, enfin La Berceuse, cette idée de s'écouter comme ça, comme si une voix intérieure vous parle tout le temps. Ça fait partie de son théâtre, c'est très important. Oui, alors, l'entretien avec Godot. Godot, bien sûr, c'est un mot qui est entré dans notre culture, dans notre langage en 1953, enfin, quand la pièce a été jouée à Paris. Et bien sûr, tout le monde veut savoir qui est ce Godot qui n'arrive jamais, qui ne vient pas. Et ben moi, je suis le seul à pouvoir avoir fait un entretien avec Godot. C'est vrai. Entretien, je l'ai fait le 13 avril 2005. Le 13 avril, c'est le jour de l'anniversaire de Beckett, n'est-ce pas? Et c'est présenté sous la forme d'un dialogue entre deux clochards qui s'appelle Umlaut, Ubelat. Alors Um dit, tu sais ce que je viens de faire? Lot quoi? Un entretien avec Godot. C'est pas possible. Ça fait des années que j'essaie de faire un entretien avec lui, mais je peux pas le trouver. C'était facile. J'ai fait une recherche avec Google sur l'internet. J'ai simplement tapé Godot et un jour faites ça, vous aurez 5000 trucs qui vous viendront. Et j'ai tout de suite obtenu son site et son email. Tu te fous de ma gueule, Godot sur l'internet? Non, c'est vrai, pourquoi pas? Godot, c'est un bonhomme comme les autres. Ce mot Godot fait partie de notre langage, de notre culture. Quel genre de site il a, Godot? Oh, très simple, tu sais, très éthéré, une sorte de no man's land dans le grand espace cybernétique. Donne-moi l'adresse de son site, je veux aller voir. Oh, je peux pas faire ça. Godot m'a fait jurer que je ne donnerai pas son adresse email à qui que ce soit, sinon je serai puni. Là, vraiment, tu te moques de moi. Écoute, si tu veux pas me croire, alors oublie. Bon, vas-y, raconte, mais me dis pas que t'as envoyé un email à Godot et qu'il t'a répondu. Ben si, une réponse très brève, seulement quelques mots. Tu sais, Godot, il est pas très bavard. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était d'accord pour l'entretien? Non, il a dit « I have no views to enter ». C'est exactement ce qu'il a répondu. En anglais? Oui, en anglais. Sans doute parce qu'en français, il n'aurait pas pu faire le jeu de mots avec « entretien ». Je n'ai pas de tien à entrer. Ça marche pas. Et puis ça prouve que Godot est bilingue. Godot est même plus que bilingue. Godot, il parle toutes les langues, il parle même des langues inconnues dans ce monde. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu as fait quand il t'a dit qu'il n'avait pas de views to enter? Je lui ai envoyé un second email lui expliquant que ça fait rien parce que c'est pas ses views qui m'intéressent. Je voulais simplement avoir une petite conversation amicale avec lui sur n'importe quel sujet, voir si tout va bien pour lui, sa santé, sa situation financière, sa vie familiale si on a une. Je lui ai même préciser que si la conversation prend la forme d'un entretien, ce serait purement aléatoire, sans aucune intention ni direction. Et alors, il a répondu, d'accord pour le dialogue, puis il a ajouté, vous savez, monsieur Hume, on se sent bien lonely et découragé quand on lutte seul contre le soliloque. Il a dit ça? Pauvre Godot. Oui, ça doit être dur pour lui, la grande solitude dans laquelle il se trouve. Tu sais, c'était très touchant ce qu'il m'a dit. Et tu te rends compte, il veut que moi, je vienne l'aider à lutter contre le soliloque. Il m'a même appelé par mon nom, monsieur Hume. Oui, c'est étonnant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, on s'est rencontrés dans un endroit secret. Où? Ah, ça, je peux pas te dire. Godot m'a fait promettre de ne jamais révéler l'endroit où nous avons dialogué. Ça se comprend. Il veut pas que les masses viennent l'emmerder. Mais à moi, ton meilleur ami, tu pourrais quand même me le dire. Impossible. C'est une question de fidélité morale envers Godot. Fidélité morale, eh bien mon cher Hume, tu te mouilles pas. Toi, faire de la fidélité morale depuis quand? Depuis ma rencontre avec Godot, voilà. Bon, tu veux entendre le dialogue qu'on a eu ou non? Je l'ai enregistré mot à mot. Tu as enregistré sur cassette ce que Godot a dit, mais c'est pas possible, tu vas me dire que Godot t'a donné la permission. Non, il savait pas que j'enregistrais, je lui ai pas demandé la permission, j'avais caché mon enregistreur dans ma poche, tu sais, celui que tu m'as donné pour mon anniversaire, le tout petit Sony, j'avais l'impression d'être un espion. T'es vraiment dégueulasse d'avoir fait ça, Godot. Moi, je crois que t'es foutu. Godot va t'exterminer. Tu comprends pas que Godot sait tout, voit tout, entend tout, touche tout, renifle tout. Ouais, je sais que Godot a 5 sens, comme tout le monde, mais il s'en sert jamais. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est lui qui m'a dit. Il m'a dit que se servir de ses sens pour appréhender le monde n'est qu'une simple compétence. Il faut savoir exister au-delà des sens. Godot a dit ça? T'as mal compris. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre dans le non-sens? Là, je pige pas. T'as pas demandé une explication? Non, j'ai pas demandé d'explication parce que moi, j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait dire. Mais il se peut que j'ai mal entendu ce qu'il a dit. T'as pas l'enregistrement? Non, pas cette partie, parce que tu vois, juste quand il me disait ça, la bande magnétique de mon enregistreur était au bout. J'allais en mettre une autre, mais Godot m'a dit qu'il était fatigué et il est parti d'un seul coup. Il a disparu, pouf, comme s'il s'était pulvérisé dans l'air. Comme ça, d'un seul coup, comme un tour de magie. Oui, d'un seul coup, muscade, et voilà, plus de Godot, comme s'il n'avait jamais été là. Peut-être que tu as rêvé tout ça. Mais non, j'ai l'enregistrement pour prouver que c'est bien lui. Tu peux entendre sa voix. Il doit avoir une voix rauque, non? Alors de quoi avez-vous parlé? Oh, rien de spécial, je lui ai posé quelques questions. Et quel genre de questions? Le genre de questions qu'on pose à quelqu'un quand on le rencontre pour la première fois. D'abord, je lui ai demandé son âge. Il doit être vieux, hein? Il n'avait pas l'air vieux, il avait plutôt l'air démodé. Démodé, qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Tu sais, c'est comme s'il n'était pas de notre siècle, tu vois ce que je veux dire? Alors, quel âge il a dit? Il a pas dit, il a simplement haussé les épaules comme pour indiquer qu'il sait pas. Ça se comprend, puisqu'il est sans doute immortel. Quand je lui ai demandé où il habite, encore une fois, le même haussement d'épaules, mais avec un petit sourire comme pour dire, est-ce qu'on sait vraiment où on habite? Question conne, mon cher Hume. Il est évident qu'un type comme Godot habite partout et nulle part en même temps. Oui, je sais, mais je voulais quand même savoir s'il allait me répondre. On sait jamais. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Encore un haussement d'épaule, mais ce coup-ci avec un petit éclat de rire. Le vieux Godot est bien plus malin que tu crois. Évidemment, Godot travaille pas, il n'a pas besoin de travailler. Il est son propre patron, c'est comme s'il est au chômage en permanence. Oui, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Et finalement, il t'a rien révélé. J'étais pas là pour qu'il me révèle quelque chose, je voulais savoir s'il avait une barbe. Est-ce qu'il en avait une? Non, pas ce jour-là. Il était complètement rasé. Il avait même les cheveux bien peignés avec une raie sur le côté. T'es sûr que c'était Godot? Mais oui, je suis sûr. Combien de Godot tu crois qu'il y a dans le monde? Un, c'est assez. Tu te rends compte comme la vie serait compliquée et difficile s'il y avait des Godot partout? Je lui ai dit, bien sûr, de demander s'il pouvait me dire quand il comptait venir. Ce coup-ci, il a levé les bras en l'air pour indiquer qu'il n'avait aucune idée. C'est pas surprenant. Peut-être que le geste des bras en l'air voulait dire qu'il n'avait aucune intention de venir. Bon, et quoi encore? La situation devenait désespérante, mais je savais ça d'avance. Finalement, je n'ai pas résisté, je lui ai demandé s'il baise encore de temps en temps. Oh la vache, c'est pas vrai, tu lui as demandé ça? Si, je lui ai demandé, et tu sais ce qu'il a répondu? I used to could, en anglais, oui, en anglais. I used to could, mais c'est comme ça qu'on parle dans le Texas. Me dis pas que Godot vient du Texas, ça serait quelque chose, hein. Ça ferait scandale. Je pouvais, dans le temps qu'il a dit, incroyable, bon, et après? Ben, après rien, c'était la fin de notre entretien, c'est à ce moment-là qu'il a disparu. C'était tout? Oui? Je peux pas croire que tu aies eu l'occasion, la chance d'obtenir toute la vérité de Godot, et c'est tout ce que tu peux me dire? Quel gaspillage d'efforts! Je peux t'assurer que si moi j'avais pu faire cet entretien, j'aurais tout eu de lui, tout. Je voulais pas trop l'imposer, il est tellement sympa. Est-ce qu'il est grand? Non, tout petit seulement. 8,5 × 11. Quoi? 8,5 × 11? Mais c'est la dimension d'une feuille de papier. Oui, une feuille de papier américaine. Ah, si j'étais toi, je dirais ça à personne. Imagine la panique que ça pourrait causer dans le monde. Godot, 8,5 × 11. Et alors, personne n'est parfait dans le monde.
C'était un extrait du livre de Sam, de Raymond Federman, par Raymond Federman. Merci beaucoup, merci. Raymond, de cette lecture. irlandais d'origine, anglophone, bien entendu. Beckett devient francophone à l'occasion de ses jours à Paris dans les années 30, suivi d'une installation définitive en France à compter de 1937. À partir de là, l'essentiel de ses textes seront écrits en français et traduits par ses soins en anglais. On a évoqué cette question tout à l'heure. Au fond, Samuel Beckett, c'est un auteur bilingue qui a choisi la difficulté de s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle. Xavier, Henri, ce que vous donnez à entendre de la dernière bande, ça s'inscrit justement dans cette dualité linguistique très, très raffinée, très pensée. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé important, essentiel, de donner à entendre ce texte dans ces deux versions, anglaise et française, Henri?
Oh, c'est très simple, c'est que Beckett, un cas vraiment unique de quelqu'un qui a maintenu deux langues en parité, existait vraiment, comme nous avons dit, entre les deux langues. Pénétrer au fond de Beckett, c'est avoir côte à côte la version française et la version anglaise de ce qu'il écrit. À force de travailler dessus, j'en suis arrivé, même avec Xavier, que les deux Crapp sont presque deux individus dans ma vie. Ça fait plus de 30 ans que je vis avec ces deux individus distincts et distincts par la langue.
On peut parler, je crois, à propos de ce bilinguisme, de deux versions successives dans cette mise en scène. On voit tout d'abord une version française, on voit ensuite la version anglaise. Elles ne sont pas tout à fait semblables. Xavier, tu as veillé à ce qu'il y ait un décalage, à ce que ça ne soit pas une redite. On n'entend pas ce texte deux fois. Il y a un véritable travail sur comment mettre ces deux langues en miroir l'une par rapport à l'autre.
Bah, c'est ça qui était aussi intéressant dans cette proposition et qui pouvait être aussi assez casse-gueule, parce que on a beau se dire qu'on goûte les deux langues, il faut quand même bien savoir qu'en France peu de gens parlent suffisamment bien anglais pour vraiment apprécier les subtilités, à mon sens, de langage. Donc voilà, c'était une sorte de contrainte. Nombre de poètes se donnent des contraintes pour réaliser leur œuvre. Donc on s'est posé la question de comment trouver une scénographie, une temporalité différente avec la version anglaise, et donc nous est venue cette idée du film, et que le personnage de Crapp qu'interprète Henri dans la version française puisse être comme si quelques années avaient passé.
Anglaise. Tu as dit dans la version française.
Oui, j'ai dit que le personnage que tu joues dans la version française, oui, dans la version anglaise, ah oui, c'est ça. Ça peut être dans un autre temps. Donc l'espace change. C'était très agréable de travailler dans ce théâtre de Lanche qui réouvre, et donc dans la scène est maintenant beaucoup plus volumineuse et qui permet, parce qu'il y a une acoustique absolument excellente, de travailler justement sur cette ombre et cette lumière qui est déterminante en tout cas dans la dernière bande.
Émile-Michel Cioran disait « On n'habite pas un pays, on habite une langue. Si on inverse la proposition, on n'est pas étranger à un pays, on est étranger à sa langue. » Et est-ce que le choix de Samuel Beckett d'écrire en français, au-delà du fait qu'il résidait en France, ça n'était pas aussi une volonté de sa part d'être étranger à une langue, et en étant étranger, d'avoir justement cette possibilité de la regarder d'une façon critique, d'avoir sur la matière des mots, sur la prosodie, un regard qui soit un regard distancié? Et est-ce que ça n'est pas aussi une des raisons de son choix d'écrire en français, Henri?
Sans doute, je crois que vous l'avez très bien dit. Je voudrais ajouter ceci, c'est que la quasi-totalité de l'humanité est au moins bilingue ou polyglotte. Le cas français, le cas américain est extrêmement rare dans le monde où les gens parlent une langue. La nature de l'espèce humaine, même une partie de l'évolution de l'espèce humaine, était la possibilité d'avoir plusieurs langues, la langue de la tribu intime et la langue franca entre d'autres tribus. Beckett était profondément conscient de cette de cette nécessité tous les jours de traduire. Il pensait même que, et ce qui est une théorie maintenant plus ou moins acceptée par les linguistes, que la notion de traduire, d'interpréter, n'est pas étrangère au fait même de s'exprimer. Quand je m'exprime à vous, je traduis vers vous, même si nous parlons la même langue. Donc, Beckett, avec les deux langues ensemble, dans notre version, je crois, nous met devant une réalité fondamentale, au moins de l'Occident. Je ne sais pas ce que Raymond pense.
Non seulement le français et l'anglais, Beckett parlait et comprenait l'allemand à fond, l'italien, et il lisait le grec et le latin. Il y a à l'université de Buffalo, j'ai enseigné, où il y a tous les manuscrits de Joyce, et ça. Il y a un télégramme que Joyce avait envoyé à Beckett pour lui demander le sens d'un mot grec. Ouais. Non, il était vraiment. Henri a raison, il était plongé dans cela. Alors, le français et l'anglais, pour lui, se complémentent l'un l'autre. C'est comme s'il se disait j'ai pas fini ce livre avant de le finir dans l'autre langue. Et ça va dans les deux directions.
Précisément, ça va dans les deux directions, puisque Raymond Federman, votre parcours est quasiment symétrique de celui de Beckett, puisque, je le disais en introduction, vous vivez aux États-Unis, à New York, je crois.
Non, en Californie,
en Californie.
À San Diego.
Mais vous êtes français d'origine, natif de la banlieue parisienne, je crois. Peut-être racontez-nous un petit peu rapidement les circonstances qui vous ont amené à partir aux États-Unis, et puis comment aujourd'hui vous êtes amené à avoir cette double pratique linguistique dans votre travail d'écrivain. Comment cohabite le français et l'anglais ?
C'est une longue histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un des aspects du travail de Beckett qui m'a attiré, c'est ce bilinguisme, parce que j'écris aussi bien en français qu'en anglais, et je me traduis moi-même. Bon, mais alors, non pas au niveau auquel Beckett travaillait. Non, lui,
on peut dire quand même en deux mots que Beckett est venu en France au moment de la guerre, ce qui n'était quand même pas facile d'ailleurs.
Il s'est installé à Paris, je crois, en 1937, permanent, oui. Et puis il est resté, d'ailleurs, quand la guerre a été déclarée, il aurait pu rentrer en Irlande. Je préfère être en France pendant l'occupation que d'être en Irlande.
Et vous-même aussi, c'est la guerre, je crois qu'il vous a
fait
partie.
C'est la guerre, je suis parti en Amérique en 1947, sans un mot d'anglais, j'avais 19 ans, et cette langue s'est formée dans ma bouche comme ça. Je parle, je crois que j'écris bien en anglais, je contrôle la langue, mais j'ai cet accent français, d'ailleurs bien cultivé,
oui,
comme
c'est
je
ça,
dis.
On a le sentiment que vous le cultivez
pour des raisons, oui. Mais on me demande toujours si je suis plus confortable en français ou en anglais, je crois que peut-être en anglais. Je me sens mieux maintenant, après près de 60 ans en Amérique, en anglais. Et il faut lutter avec la langue française. Et Beckett luttait avec la langue française. Je me souviens, ce roman Commencer, qui est au point de vue langage, c'est quelque chose d'extraordinaire, où il a complètement mis le chaos dans la langue française. Et j'étais chez lui quand il me sort quelques pages de la version anglaise qu'il faisait, et il me dit, tu sais, la langue anglaise m'a résisté. Parce qu'en français, il y a des règles bien précises, et Beckett avait réussi à abolir toutes les règles. Mais en anglais, non, la langue anglaise, elle est d'une flexibilité, d'une fluidité, d'une beauté aussi. Alors, ça tombe en place.
Bien, je vous propose maintenant qu'on écoute un extrait de cette dernière bande, Crabbe's Last Tape. Peut-être mêlant l'anglais et le français, au gré et au désir d'Henry Pillsbury.
Je pense que finalement, étant donné la discussion qu'on a eue, le plus intéressant, c'est que je donne deux extraits identiques au lieu d'un extrait en français d'abord, et puis sachant qu'il a commencé avec l'anglais, mais commençant avec le français, je vais prendre des extraits dans la partie où le vieux fait son enregistrement, je pourrais dire annuel. Et il vient de s'écouter, comme dit Raymond, il aime beaucoup s'écouter. Alors en français, il commence avec « Il vient d'écouter ce pauvre petit crétin pour qui je me prenais il y a 30 ans. Difficile de croire que j'ai jamais été con à ce point-là. Cette voix, Jésus. Ça au moins, c'est fini. Dieu merci. » En anglais, cette partie-là. « Just been listening to that stupid bastard that took myself for 30 years ago. Hard to believe I was ever as bad as that. The voice, Jesus. Thank God that's all done with anyway. » je reprends un peu plus loin là-dedans. Me suis tiré dehors une fois ou deux avant que l'été se glace, resté assis à grelotter dans le parc, les yeux fermés, souhaitant d'en finir. Personne. Crawled out once or twice before the summer was cold, sat shivering in the park, drowned in dreams and burning to be gone. Not a soul. Fanny est venue une ou deux fois, vieille ombre de putain squelettique, pas pu faire grand-chose, mais sans doute mieux qu'entre le pouce et l'index. La dernière fois, ça n'était pas si mal. « Comment tu fais ton compte ?» m'a-t-elle dit. « À ton âge, je lui ai répondu que je m'étais réservé pour elle toute ma vie. » Fanny came in a couple of times, bony old ghost of a whore. Couldn't do much, but I suppose better than a kick in the crotch. The last time wasn't so bad. How do you manage it, she said, at your age? I told her I'd been saving up for her all my life. Assez. Vide ta bouteille et fous-toi au pieu. Reprends ces conneries demain. Ou restes-en là. Restes-en là. Installe-toi là, dans le noir, adossé à l'oreiller. Et vagabonde? Ah, finish your booze now and get to your bed. Go on with this drivel in the morning. Or leave it at that. Leave it at that. Lie propped up in the dark and wander.
Merci beaucoup, Henri Pillsbury. Juste une réaction, Raymond Federman, rapidement. Non, mais laisser un petit peu le temps pour une dernière lecture.
Je vais simplement dire que Beckett parlait un français impeccable. Mais alors, il avait un accent irlandais très prononcé, que je ne comprenais pas parfois quand il parle en anglais.
On ne va pas en rester là. En tout cas, nous, on est obligé de terminer cette émission très bientôt. Mais je vous propose, pour la terminer, qu'on écoute un extrait de Premier Amour, dit par Pascal Aumauvert. Peut-être, Pascal, tu nous situes en quelques mots de quoi il s'agit et comment ce texte est en regard précisément de la dernière bande.
Oui, bonjour. Alors donc, c'est difficile de parler quand on a surtout envie d'écouter Henri et Raymond, c'est vrai. Alors moi, je suis acteur et Xavier m'a demandé de lire Premier Amour ce soir et dimanche matin et puis également le 1er et le 2 février. Ça fait 3 ans que je fréquente Beckett, et il m'arrive la chose suivante, c'est que j'ai joué récemment avec Michael Lonsdale dans Catastrophe, et j'ai joué le rôle du protagoniste, c'est-à-dire un rôle muet, et me voilà confronté à un flot de paroles, tout à coup, avec Premier Amour. Alors Premier Amour a été écrit en 1945, je crois que c'est la première pièce écrite en français, un des premiers textes, oui. Je dis pièce, mais c'est vrai qu'on est au bord du théâtre. On est au bord du théâtre, on est entre le roman et le théâtre. Donc je vais peut-être lire.
On va l'écouter dans quelques secondes, oui, voilà. À peine le temps que je vous précise que la dernière bande et l'ensemble du dispositif théâtral autour de la dernière bande, et notamment des lectures de Pascal Aumauvert et de Raymond Federman, c'est au Théâtre de l'Anche du 22 janvier au 2 février, et que vous pouvez bien entendu réserver en appelant le 04 91 91 52 22. Et maintenant, pour terminer cette émission, on écoute Pascal Aumauvert, Premier Amour.
Mais quelques semaines plus tard, plus mort que vif, je retournais encore au banc. Cela faisait la 4e ou 5e fois depuis que je l'avais abandonné. À la même heure à peu près, je veux dire à peu près sous le même ciel. Non, ce n'est pas cela non plus, car c'est toujours le même ciel et ce n'est jamais le même ciel. Comment exprimer cette chose? Je ne l'exprimerai pas, voilà. Elle n'y était pas. Mais tout d'un coup, elle y était. Je ne sais comment. Je ne l'avais pas vue venir, ni entendue venir. Et cependant, j'étais aux aguets. Disons qu'il pleuvait, cela nous changera un peu. Elle s'abritait sous un parapluie. Naturellement, elle devait avoir une garde-robe formidable. Je lui demandais si elle venait tous les soirs. Non, dit-elle, seulement de temps en temps. Le banc était trop humide pour qu'on osât s'y asseoir. Nous marchions de long en large. Je lui pris le bras par curiosité pour voir si cela me ferait plaisir, mais cela ne me fit aucun plaisir. Alors, je le lâchai. Mais pourquoi ces détails ? Pour retarder l'échéance. Je voyais un peu mieux sa figure. Je la trouvais normale, sa figure, une figure comme il y en a des millions. Elle louchait, mais cela, je ne le sus que plus tard. Elle ne semblait ni jeune ni vieille, sa figure. Elle était comme suspendue entre la fraîcheur et le flétrissement. Je supportais mal, à cette époque, ce genre d'ambiguïté. Quant à savoir si elle était belle, sa figure, ou si elle avait été belle, ou si elle avait des chances de devenir belle, j'avoue que j'en étais bien incapable. J'ai vu des figures sur des photos que j'aurais peut-être pu appeler belles si j'avais eu quelques données sur la beauté. Et la figure de mon père, sur son lit de mort, m'avait fait entrevoir la possibilité d'une esthétique de l'humain. Mais les figures des vivants, toujours en train de grimacer avec le sang à fleur de peau, est-ce des objets ? J'admirais, malgré l'obscurité, malgré mon trouble, la façon qu'a l'eau immobile ou qui coule lentement de se soulever vers celle qui tombe comme assoiffée.